Vous écoutez, on lit pour vous.
L'heure juste. Un texte de Maxime Johnson, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité. Des produits électroniques comme l'Apple Watch s'affichent maintenant carboneutres. Une affirmation à prendre avec des pincettes. Environ 8,1 kg. Voilà la quantité d'émissions carbone produites pour la fabrication, le transport et l'utilisation moyenne de la nouvelle Apple Watch série 9, selon un rapport environnemental publié par Apple. C'est 4,5 fois moins que pour les modèles précédents. L'entreprise a consommé de l'énergie renouvelable pour la production de la montre et a forcé ses fournisseurs à en faire autant, a intégré 30 % de matériaux recyclés ou renouvelables dans sa fabrication et a diminué de 50 % le transport en avion. Ce qui reste de ces émissions a été compensé par différentes initiatives, notamment de restauration et de protection de forêts au Brésil et au Paraguay, qui retirent l'équivalent de 8,1 kg de CO2 de l'atmosphère par montre vendue, se targue l'entreprise. Il s'agit du premier appareil électronique carboneutre de la marque, parenthèse, l'un des rares dans le monde, surtout pour un produit aussi prisé, fin de parenthèse, et ce ne sera pas le dernier. D'ici 2030, Apple devrait annuler les émissions de tous ses gadgets. Et d'autres entreprises prévoient en faire autant, comme Amazon, qui publie également le bilan carbone de certains de ses produits électroniques et vise la carboneutralité d'ici 2040. D'où l'importance de savoir de quoi il retourne. Citation : Pour s'annoncer carboneutre, il faut avoir fait des efforts pour abaisser le plus possible les émissions du produit, puis compenser ce qui reste avec des crédits. Fin de citation, explique Cécile Bull, professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM. Tant la professeure que d'autres experts s'entendent sur un point, les efforts de transparence d'Apple par rapport à la démarche sont louables. Peu d'entreprises publient l'étude sur le cycle de vie d'un produit comme elle l'a fait. Il y a tout de même des bémols à mettre. Citation : Je comprends qu'une entreprise ne puisse pas tout dévoiler, mais ça aurait été bien d'avoir accès aux évaluations indépendantes effectuées pour la certification, lesquelles n'ont pas été publiées. Fin de citation, note François Saunier, directeur général adjoint du Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIREG. De tels rapports nous auraient notamment renseigné davantage sur les mécanismes permettant d'affirmer que toute l'énergie utilisée dans la fabrication est renouvelable. Pour une montre, il est également difficile de croire qu'il n'aurait pas été possible de réduire encore plus le transport en avion. Ce n'est pas périssable comme du poisson. Céline Bull relève aussi quelques oublis de la part d'Apple. Citation : L'entreprise compense la consommation énergétique de la montre pendant toute sa durée de vie, mais pas son utilisation d'Internet. Fin de citation : Alors que cela émet également des gaz à effet de serre et devrait faire partie du calcul selon les bonnes pratiques. Les crédits d'émission ont aussi leurs limites. Citation : Planter des arbres, c'est bien, mais il faut attendre des années avant que le carbone soit séquestré. Fin de citation, souligne la chercheuse. Et bien qu'on en tienne compte en séquestrant un peu plus que nécessaire, une forêt peut brûler et tous les efforts de compensation s'envolent alors en fumée. D'un point de vue environnemental, une montre intelligente carboneutre est mieux qu'une autre qui ne l'est pas. Mais si cette étiquette donne bonne conscience, on doit tout de même s'en méfier, avance François Saunier. Citation : Il ne faut pas que ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'émissions associées. Car il y en a. Fin de citation. C'était L'heure juste, un texte de Maxime Johnson, paru dans l'édition de mars 2024 du magazine L'Actualité.
Ce que votre chauffeur-chauffeuse Uber n'ose pas vous dire. Un texte de Catherine Genet, paru le 11 décembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Chaque jour, des conducteurs-conductrices Uber s'arrangent pour déjouer l'application et faire grimper les prix à l'aéroport. Cette information, comme bien d'autres, est venue à nos oreilles après discussion avec trois chauffeurs-chauffeuses du Grand Montréal. Nos spécialistes. Karim, nous avons changé l'identité de ce chauffeur à sa demande. Montréal, 8 ans d'expérience. Jean, Longueuil, 6 ans d'expérience. Marie-Pierre, Montréal, 1 an d'expérience. Note de la rédaction. Par souci de discrétion et à la demande des personnes interrogées pour ce texte, nous avons choisi de taire leur nom de famille. Ça nous énerve d'attendre. Contrairement aux taxis traditionnels, les véhicules utilisés pour Uber n'ont pas de compteur, de cadran numérique qui donne un sens au dicton « le temps, c'est de l'argent ». Par conséquent, les retardataires irritent particulièrement les chauffeuses comme Marie-Pierre. On est tellement peu payé. Honnêtement, tu ne devrais pas appeler un Uber si tu n'es pas vraiment prêt ou prêt. L'autre truc qui est poche, c'est lorsque quelqu'un appelle pour aller du point A au point B, mais qu'il demande que je le débarque entre les deux pour aller chercher des trucs ou son enfant à la garderie et que je l'attends pendant 10 minutes. Tu peux pas vraiment lui dire non sur le coup. Et comme la course est prépayée, je perds de l'argent. À l'aéroport, il y a beaucoup de magouilles. Quand on parle avec des chauffeurs-chauffeuses et en fouinant sur des groupes Facebook voués aux échanges entre collègues, un terme anglais revient souvent, « surge ». Ce mot peut se traduire par une surtension, une poussée, une augmentation. Dans le jargon Uber, un « surge » fait référence à la majoration tarifaire, au prix qui grimpe normalement en fonction d'une forte demande, comme lors d'un orage ou un soir de nouvel an. Or, il semblerait que certaines conducteurs-conductrices ont recours à des stratégies pour tromper l'algorithme. Moi, je ne vais pas à l'aéroport parce que ce qui se passe là-bas est malhonnête, résume Karim, un ancien travailleur du milieu de la finance qui s'est réorienté vers l'industrie du taxi traditionnel avant de prendre le virage Uber. Je ne veux pas généraliser, mais une grosse majorité des chauffeurs qui sont à l'aéroport vont se déloguer du système. Donc ils sont là, mais l'application ne les repère pas. Forcément, l'offre est amoindrie artificiellement et les prix montent. Quand ces gens voient ça, ils se reconnectent. S'ils réussissent à avoir un call avec une majoration, ils vont le prendre. S'ils voient que la majoration est tombée, ils refont le même jeu. Ils peuvent rester toute la journée à l'aéroport juste pour faire 1 ou 2 appels. Plus qu'une pratique individuelle, la chasse au surge serait une tactique de groupe, résulterait d'efforts coopératifs. Les gens qui font cette pratique en sont même venus à communiquer entre eux sur des applications comme WhatsApp. Dans leur groupe, ils disent « OK, on se délogue tous » ou « On se logue tous » et ainsi de suite. Être chauffeur Uber, c'est faire des maths tout le temps. La communauté Uber ne forme pas un bloc monolithique. Contrairement à Karim, Jean semble carburer à la chasse aux primes. Je suis toujours en train d'analyser les probabilités que ce soit une bonne course. Moi, je refuse 92 courses sur 100, explique Jean, un diplômé des HEC, qui travaille aussi à temps partiel comme consultant en stratégie des affaires. Pour que j'accepte une course, il y a un paquet de facteurs qui entrent en ligne de compte, dont la proximité du client ou de la cliente et le taux de majoration. On n'est pas des déménageurs. À peu de choses près, Marie-Pierre est encore dans sa lune de miel avec Uber, même si elle aurait fort bien pu abandonner son sideline après l'une de ses premières courses. Le gars avait rempli mes sièges arrière et ma valise pour un gros 5 piastres, raconte-t-elle en riant de bon cœur. C'était toute une aubaine pour lui, un service déménagement vraiment pas cher. Jean a aussi vécu des situations similaires. Avant, j'avais un Uber XL, une voiture de 7 places, et c'est arrivé que des gens traînent des meubles. Le 1er juillet, les chauffeurs Uber sont utilisés pour déménager au rabais. Mais ça, c'est la minorité. 99% des clients sont corrects. les Américains et les Ontariens sont de meilleurs clients. Les trois personnes interrogées s'entendent sur ce point. La vaste majorité des passagers passagères ne laissent pas de pourboire. Selon Jean, un client sur 10 donne du tip. Ce serait, selon lui, attribuable au fait que cette option n'apparaît dans l'application qu'une fois la course terminée. Le client ou la cliente est déjà hors du véhicule à ce moment-là. Marie-Pierre remarque la même chose. Chez les 18 à 25 ans, c'est rare, pratiquement impossible, qu'il ou elle me laisse du tip. C'est les gens plus âgés et les touristes qui vont en donner. Radin, radine, les Montréalais, Montréalaises, une chose est sûre. Aux yeux de Karim, il et elle manquent parfois de politesse. Les gens qui viennent des autres provinces et des États-Unis nous typent beaucoup plus. J'estime que 90% d'entre eux sont toujours à l'heure, alors que chez les gens de la ville, il y a 60-70% qui nous font attendre et ils ne s'excusent même pas. On ne peut pas parler en mal d'Uber. Depuis janvier 2022, le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce offre de défendre les intérêts des chauffeurs-chauffeuses en cas de litige avec Uber. N'empêche, les travailleurs-travailleuses pigistes au sens de la loi ne sont pas syndiqués pour autant. La relation entre la multinationale et ses sous-traitants-traitantes a quelque chose d'orwellien. Tel un Big Brother omniscient, Uber surveille les individus qui pourraient nuire à sa réputation. L'entreprise menacerait même de supprimer les comptes de ceux qui en disent trop ou qui ont une note inférieure à 4,5 sur 5. Vous savez, nous, les chauffeurs Uber, on n'est pas protégés, on n'a pas de représentant syndical. Donc, des fois, ça peut être dangereux ce qu'on dit. Dans les groupes Facebook, il y a des représentants d'Uber qui nous checkent. Si vous critiquez pour eux, c'est simple, ils appuient sur un bouton et vous êtes déconnecté. C'était ce que votre chauffeur-chauffeuse Uber n'ose pas vous dire. Un texte de Catherine Genet paru le 11 décembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
Santé. Un texte d'Alain Vadeboncœur, paru dans la revue L'Actualité, édition mars 2024. Avez-vous déjà essayé de soulager un rhume avec de la vitamine C? Si oui, peut-être vous êtes-vous senti mieux. Mais était-ce vraiment grâce aux suppléments vitaminiques? Bien répondre à cette question est un défi plus complexe qu'il n'y paraît. La démarche pourrait commencer par la volonté d'un chercheur de publier votre aventure dans un journal scientifique sous forme de cas clinique. Même si vous en éprouviez de la fierté, il ne s'agirait que d'une simple anecdote, presque sans valeur, sauf pour vous, évidemment. C'est que votre guérison pourrait s'expliquer par une foule d'autres facteurs, comme le temps qui passe, l'effet placebo ou celui du hasard, principe qui s'applique aussi à la vaste majorité de nos expériences personnelles concernant nos problèmes de santé quotidiens. Sa consœur, plus curieuse, proposerait peut-être au même journal une série de cas semblables aux vôtres. Cependant, ces cas n'offriraient guère plus de réponses que le premier, et nous en serions toujours accroupis au sous-sol de l'édifice d'épreuve. C'est au premier étage qu'une chercheuse plus en moyen mènerait peut-être, sur des personnes tout aussi enrhumées que vous, une étude appelée « cas témoins », qui inclurait des cas exposés aux suppléments de vitamines ainsi que des témoins qui ne prendrait rien de spécial. Une telle approche vise à mesurer une éventuelle association statistique entre la prise de vitamine C et le soulagement des symptômes, sans toutefois permettre de conclure à un lien causal. Pourquoi? Parce que ce type de recherche est sujet à de nombreux biais, notamment liés au défi de bien s'assurer que les deux groupes sont comparables. Si l'équilibre est simple à atteindre pour l'âge ou le sexe, c'est plus complexe pour l'état de santé, l'usage de médicaments ou la quantité de vitamine C dans la diète, par exemple. Le deuxième étage de l'édifice d'épreuve est donc occupé par ceux qui mènent de vastes « études de cohorte », où il s'agit de suivre dans le temps de larges groupes d'individus. Si ces études sont souvent plus précises que les précédentes, elles s'avèrent moins utiles pour notre genre de questions, puisqu'elles se concentrent habituellement sur l'analyse des facteurs de risque affectant la santé à plus long terme que les rhumes. Au troisième étage, on trouve les spécialistes des comparaisons directes, ici entre deux groupes d'enrhumés, l'un recevant la fameuse vitamine, groupe expérimental, et l'autre un placebo, groupe témoin. Mais comme les chercheurs répartissent eux-mêmes les sujets entre les deux groupes au lieu de se fier au hasard, ils induisent depuis toujours, parfois sans s'en rendre compte, un biais de sélection qui mine leurs résultats. Afin d'améliorer la comparabilité des groupes, il faut monter au quatrième étage où les chercheurs poussent le zèle jusqu'à répartir les sujets au hasard dans les deux groupes, ce qu'on appelle une randomisation, étape cruciale dans l'évaluation des traitements médicaux. Idéalement, ni les participants ni les équipes de recherche ne savent non plus à quel groupe chacun appartient, sauf pour l'analyse finale. On parlera alors d'une approche en double aveugle qui permet paradoxalement d'y voir plus clair. De manière générale, plus vaste est ce genre d'étude, plus imposante aussi est sa puissance statistique, qu'on peut définir comme la probabilité qu'un éventuel avantage procuré par la vitamine C soit bien réel et non le simple fruit du hasard. C'est au cinquième étage que des scientifiques fort concentrés s'occupent des revues systématiques par lesquelles sont regroupées, selon une méthode éprouvée, les meilleures études accessibles. On obtient ainsi une somme des connaissances pertinentes. Au sixième étage, les pointilleuses équipes des difficiles méta-analyses franchissent une ultime étape en combinant, lorsque c'est possible, les résultats individuels de l'ensemble des études dont elles disposent afin de fournir une réponse presque idéale à la question qui nous pique le nez depuis le début. Enfin, dans le luxueux penthouse du septième, lorsque la majorité des experts de ce grave sujet s'entendent entre deux apéros, dans la joie et sans équivoque, sur les principaux constats scientifiques, on parle d'un consensus. Mais vous serez déçus, car il n'existe actuellement pas de consensus à propos de l'effet de la vitamine C sur les symptômes du rhume. Si on peut affirmer qu'elle ne semble pas le prévenir, il est possible qu'elle puisse en raccourcir un petit peu la durée et en atténuer légèrement les manifestations, sans plus. Mon opinion sur le sujet? Pour le rhume, les suppléments de vitamine C n'en valent pas la peine. Et si vous vous interrogez sur la justesse de cette opinion, sachez qu'elle ne vaut quasi rien du point de vue scientifique. Voilà pourquoi j'essaie d'en avoir le moins souvent possible. Je parle des rhumes, bien entendu. Votre guérison pourrait s'expliquer par une foule de facteurs, comme le temps qui passe, l'effet placebo ou celui du hasard. C'était « Santé », un texte d'Alain Vadeboncœur, paru dans la revue « L'Actualité », édition mars 2024.
L'impact des feux de forêt sur la couche d'ozone. Un texte de Nicolas Butor, paru dans le magazine Pour la science, mai 2023. En atteignant la stratosphère, la fumée des feux de forêt favoriserait la production de molécules destructrices d'ozone. Entre 2019 et 2020, les feux de brousse ont touché 18,6 millions d'hectares en Australie et ont eu des conséquences dévastatrices pour le pays. Favorisés par le changement climatique, ces incendies ont constitué un symbole des dommages concrets du réchauffement global sur les populations humaines et la biodiversité. Susan Solomon, du MIT, Institut de technologie du Massachusetts, aux États-Unis, et ses collègues viennent d'établir que la fumée de ces feux aurait aussi entraîné une dégradation de l'ozone stratosphérique, constituant la fameuse couche d'ozone. Située entre 15 et 35 km d'altitude dans la stratosphère, la couche d'ozone absorbe une partie des rayons ultraviolets du Soleil, nous protégeant de leurs effets mutagènes. Or, cet ozone est détruit par les composés chlorés issus des chlorofluorocarbures, CFC. Ces molécules, massivement utilisées au XXe siècle dans les réfrigérateurs et les aérosols, ont provoqué un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Pour y remédier, les États ont signé, en 1987, le protocole de Montréal, qui a interdit l'usage des principaux CFC. La mise en place de ces contraintes a conduit à un rétablissement progressif de l'ozone stratosphérique jusqu'à aujourd'hui. Mais, en 2020, une diminution anormale de la concentration en ozone a été observée dans l'hémisphère sud aux moyennes latitudes, entre 30 et 50 degrés. Pour explorer le lien entre cet événement et les incendies en Australie, Susan Solomon et ses collègues se sont focalisés sur la composition chimique des fumées. On y trouve de nombreuses molécules organiques oxydées, notamment des acides organiques, et des sulfates, tous issus de la combustion des végétaux. D'après les chercheurs, ce mélange, dans les conditions stratosphériques, se comporterait comme un liquide. Dès lors, il faciliterait certaines réactions. L'acide chlorhydrique, HCI, dérivé des CFC, encore présent dans l'atmosphère, résidu des émissions datant d'avant la mise en place du protocole de Montréal, s'y dissoudrait et réagirait avec d'autres composés chlorés dérivés des CFC pour former des molécules photoréactives. Sous l'effet des rayons du soleil, celles-ci deviendraient des molécules destructrices d'ozone. Susan Solomon et ses collègues ont évalué l'influence de ce mécanisme sur la couche d'ozone en l'intégrant dans un modèle numérique d'évolution de la composition atmosphérique. Les résultats obtenus sur l'année 2020 sont en accord avec les observations. Une perte de 3 à 5 d'ozone stratosphérique aux moyennes latitudes et une extension de l'étendue du trou dans la couche d'ozone de 2,5 millions de kilomètres carrés entre septembre et octobre 2020. Ce processus n'aurait pas d'effet à des latitudes plus hautes, car la solubilité de l'acide chlorhydrique dans les acides organiques devient trop basse aux températures polaires. Dans un monde soumis à de plus en plus de feux de forêt, à cause du changement climatique ou de la déforestation, en Alaska, en Russie, au Brésil, etc., l'interaction des fumées avec les composés chlorés de la stratosphère laisse craindre un dangereux retard dans le rétablissement complet de la couche d'ozone. À surveiller, entre 2010-2020, 5 CFC ont connu une augmentation importante de leur abondance dans l'atmosphère. Deux d'entre eux n'ont pas d'usage et leur origine reste inconnue. Leur effet sur la couche d'ozone est demeuré limité, pour l'instant. C'était l'impact des feux de forêt sur la couche d'ozone. Un texte de Nicolas Butor, paru dans le magazine Pour la science, de mai 2023.
Difficile d'avoir accès à un gynéco, des femmes en situation de handicap revendiquent des cliniques accessibles. Un texte d'Anouk Lebel, paru le 20 janvier 2024 dans le Journal de Québec. Des femmes en situation de handicap dénoncent le fait qu'elles n'ont pas accès à des soins adaptés, une situation qui menace leur santé, en plus de les mettre dans des positions dégradantes. C'est plein de petits traumatismes, résume Marjorie Aunos. La psychologue et conférencière de 46 ans a perdu toute sensation et le contrôle des muscles dans une bonne partie de son corps à la suite d'un accident de voiture il y a 12 ans. Désormais en fauteuil roulant, la mère d'un adolescent de 13 ans a eu toutes les misères du monde pour trouver un gynécologue qui pourrait replacer son stérilet, par exemple. Table trop haute, salle trop petite, personnel mal formé. Elle a fini par se retrouver à subir un examen dans une salle de fourniture avec 5 personnes, dont 4 hommes, 2 qui lui tenaient les jambes. J'avais perdu ma dignité. J'aurais préféré de ne pas me retrouver dans cette situation. J'en pleurais, confie-t-elle. Préjugée, à 37 ans, Sarah Limoges n'a tout simplement pas de gynécologue, faute de clinique accessible. Un fauteuil roulant, ça ne passe pas dans les chambres, même pas les toilettes, décrit l'intervenante sociale atteinte d'arthrite juvénile grave depuis l'âge de 4 ans. C'est sans compter les préjugés. Quand mon médecin de famille m'a demandé si j'avais une vie sexuelle, il a coché non. Il partait avec des préjugés. J'ai dû le rattraper, illustre-t-elle. Elle s'inquiète maintenant de ne pas pouvoir passer de mammographie malgré des antécédents dans la famille. Est-ce que je vais passer sous le radar parce que notre système de santé ne peut pas nous accueillir? Demande-t-elle. Marjorie Aunos, elle, a dû s'y reprendre à 3 fois en 6 semaines. Il fallait que je me tienne sur la machine, mais je ne pouvais pas mettre mes mains à certains endroits. C'était dangereux, j'aurais pu tomber, explique-t-elle. Après 2 essais et des images non concluantes, les médecins ont dû se tourner vers une échographie des seins. Manque d'accès. L'organisme Moelle épinière et motricité Québec estime que de telles situations pourraient toucher 600 000 femmes dans la province. L'accès aux soins, c'est difficile pour les personnes handicapées en général. Pour les femmes, c'est encore pire. C'est une frustration quotidienne, remarque Walter Zelaya, directeur général de l'organisme depuis 20 ans. Il demande que Québec mette en place au moins une clinique accessible par région, de manière à ce que les femmes puissent avoir accès aux soins de base. En ce moment, c'est comme le tiers-monde, laisse-t-il tomber. C'était « Difficile d'avoir accès à un gynéco, des femmes en situation de handicap revendiquent des cliniques accessibles », un texte d'Anouk Lebel, paru le 20 janvier 2024 dans le Journal de Québec.